Bonjour à chacun. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un extrait du livre de Job, au chapitre 13, versets 1 à 12. Nous sommes le dimanche 3 mai. Dans ce texte, Job s'adresse à ses amis après le discours de l'un d'eux. Oui, certes, tout cela mes propres yeux l'ont vu, dit Job. Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles, et je l'ai bien compris. Tout ce que vous savez, je le sais, moi aussi. Je ne vous cède en rien. Mais c'est au Tout-Puissant que je veux m'adresser. C'est devant Dieu lui-même que je veux défendre ma cause. Quant à vous, mes amis, vous forgez des mensonges. Vous êtes tous des médecins incompétents. Ah, si vous gardiez le silence, alors vous seriez sages. Écoutez, je vous prie, ma récrimination. Et soyez attentifs à la plaidoirie de mes lèvres. Dieu aurait-il besoin de vos propos injustes? Et est-ce pour le soutenir que vous dites des faussetés? Allez-vous vous montrer partiaux en sa faveur? Prétendez-vous plaider pour défendre sa cause? Et sera-ce à votre avantage s'il sonde vos pensées? Comptez-vous le tromper comme l'on trompe un homme? Il ne manquera pas de vous le reprocher si vous aviez pour lui des partis pris secrets. Sa Majesté n'a-t-elle rien pour vous effrayer? N'êtes-vous pas saisi par la peur qu'il vous inspire? Car vos paroles ne sont que maximes de cendre et vos réponses des ouvrages d'argile. Nous avons entendu la plainte de Job, cette plainte d'un homme qui se révolte face au malheur, la plainte d'un innocent qui se sent injustement condamné par le sort, par la vie et par Dieu aussi. Cette plainte, beaucoup d'hommes et de femmes, avant et après Job, ont pu aussi la crier. Car dans la vie, dans l'histoire du monde et dans nos vies à nous, il y a des tragédies qui sont inexplicables. Dans ces moments-là, on ne sait alors plus très bien où est Dieu. Son silence ou son apparente inaction nous font douter, si ce n'est de son existence, du moins de son intérêt pour nous, les êtres humains qu'il a créés. Ou bien nous risquons de penser que Dieu nous enverrait l'épreuve pour nous punir ou nous faire repartir sur un droit chemin. Combien sommes-nous loin du Dieu d'amour de l'Évangile qui nous appelle à la confiance envers le Dieu Père. Dieu est le malheur. Dieu est la souffrance. Voilà un des plus graves problèmes de notre vie de foi. On peut dire que dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Job qui prend à bras-le-corps ce problème. Sans se contenter des réponses toutes faites et trop rapides de la tradition et de la théologie officielle, Job nous invite à passer d'une réflexion théorique sur le pourquoi de la souffrance à une prière vécue au cœur de l'épreuve. Il nous invite non pas à parler de Dieu d'une façon un peu abstraite, mais à parler à Dieu de ce qui nous fait mal et nous est insupportable. Et c'est ainsi, en entrant dans ce dialogue avec Dieu, un dialogue qui peut même contenir une part de révolte, que nous pouvons découvrir au bout du chemin une lueur qui nous permet l'espérance. Quelle est donc cette démarche spirituelle entreprise par Job? D'abord, nous pourrions tenter de soulever des arguments contre Dieu. C'est la tentation la plus courante lorsque Dieu ne semble pas là dans les circonstances funestes. C'est par exemple ce que nous entendons exprimer dans l'affirmation « Si Dieu existait, alors pourquoi toutes ces guerres et ces catastrophes ?» C'est aussi ce que nous comprenons d'une philosophie athée. Cette réaction peut servir d'oreiller de paresse pour ne plus se confronter aux questions spirituelles, mais on peut deviner derrière ces positions de rejet catégorique comme une déception, une protestation, peut-être pas tant contre Dieu que contre un monde absurde, où Dieu ou un Dieu n'a pas de place. Il n'est pas interdit de croire que des athées aimeraient pouvoir croire en un Dieu dont ils se font une haute idée de bonté, d'amour, de perfection. Mais devant le problème du mal, de la souffrance, de l'imperfection du monde, justement, devant l'épaisseur du problème, donc, ils baissent les bras et abandonne l'idée de Dieu après une lutte amère qui reste à un niveau intellectuel le plus souvent et qui aboutit à une déclaration de non-existence de Dieu. Même si nous n'adhérons pas à cette conclusion, prenons en compte le sérieux de cette révolte, qui est souvent la conséquence d'un combat parfois mortel contre la souffrance, et qui n'est pas satisfaite par les réponses mauvaises ou trop rapides de la théologie. Et comme nous avons soulevé des arguments contre Dieu, nous pouvons également en soulever en sa faveur. En réaction à l'athéisme, de nombreux croyants essaient de défendre Dieu et de trouver alors des explications logiques et rationnelles au terrible problème du mal. Et cette attitude veut en quelque sorte innocenter Dieu. Cela peut se manifester dans des systèmes de raisonnement très complexes. Dieu a créé le meilleur des mondes possibles, dit-on. Il faut donc une part de mal pour mettre en lumière le bien. De la même manière que le jour est mis en évidence par le fait que la nuit existe. Ou bien la nécessité d'innocenter Dieu fait recourir à des arguments moraux, comme les amis de Job, pour qui tout est logique dans l'univers et qui ne cessent de dire à leur ami éprouvé « Si tu es dans le malheur, c'est que nécessairement tu as péché. Alors découvre ton péché, avoue ta faute, et tu verras, tout ira mieux. » On fabrique ainsi un système cohérent où le bon vit dans le bonheur et le méchant vit dans le malheur. Ne sommes-nous pas tentés nous-mêmes de croire que ce serait là un monde de justice? Mais justement, la vie à tout moment contredit ce beau système moral. Et c'est tout le sens du livre de Job que de montrer qu'on ne peut pas faire entrer Dieu dans un système logique et qu'il y a toujours une part de mystère inaccessible à notre intelligence. Job a d'ailleurs des paroles très dures contre ceux qu'il appelle des forgerons de mensonges et les médecins incompétents. « Vos paroles ne sont que maximes de cendre, » dit-il à ses amis. Voilà le problème, justement. Le tort des amis est de vouloir à tout prix innocenter Dieu sans vouloir entendre la plainte, la protestation et la révolte de celui qui souffre, c'est-à-dire Job. Et c'est pourquoi cette pseudo-consolation apportée par ses amis est totalement en porte-à-faux. Ils font, sans le savoir, de la théologie sans humanité. Job ne demande pas d'explication, mais il cherche un peu de compassion de la part de ses amis. Il faudrait toujours s'en souvenir quand nous aussi, nous sommes parfois trop rapides à proposer une explication devant la plainte de celui qui souffre, souvent par maladresse ou par peur d'être trop atteints nous-mêmes par cette souffrance. Les amis de Job oublient le scandale du mal, ne sont plus à l'écoute des plaintes de celui qui subit le mal, et c'est pourquoi leur plaidoirie en faveur de Dieu est totalement inconvenante. Elle risque au contraire de renforcer la révolte contre un tel Dieu qui semble jouer un jeu cruel avec ses créatures en ne les protégeant pas. Dans ces conditions, quelle réponse Job peut-il apporter? L'attitude de Job est intéressante, qui renvoie dos à dos ceux qui sont contre Dieu et ceux qui sont pour Dieu. Job ne fait pas de philosophie. Il ne veut pas établir un système d'explication où tout aurait sa place logique, mais il veut s'adresser directement à Dieu, lui dire sa plainte, son incompréhension, sa révolte. « C'est au Dieu Tout-Puissant que je veux m'adresser, dit-il. C'est devant Dieu lui-même que je veux défendre ma cause. » Job passe d'un discours sur Dieu à une parole adressée à Dieu. Il ne parle pas au sujet de Dieu qui permettrait ceci et punirait cela, mais il s'adresse à Dieu de tout son être. Et Job entre alors dans ce long face-à-face avec Dieu, et c'est le plus grand respect qu'on peut avoir de Dieu que de croire qu'il écoute la plainte des malheureux et des pauvres, comme l'affirment d'ailleurs tant de psaumes. C'est vrai, on a souvent oublié cela dans nos églises. On a trop souvent cru et enseigné qu'il ne fallait pas se plaindre, qu'il ne fallait pas se révolter, mais qu'il fallait tout accepter. Et l'on a trop souvent prêché une résignation à la fatalité. D'ailleurs, ne vous a-t-on jamais proclamé ce verset « Soyez toujours joyeux », sous-entendant par là que, puisque vous êtes chrétien, vous devriez retrouver le sourire, et vite. Et oui, on n'est jamais si bien trahi que par les siens, vous le savez peut-être. Car ce n'est pas l'attitude des hommes et femmes de la Bible. Il n'y a qu'à lire les psaumes et leur cortège de pourquoi. Il faut lire Job, entendre sa révolte, et comprendre, à la fin du livre, que d'après Dieu lui-même, Job avait parlé avec droiture. Oui, les hommes de la Bible n'avaient pas peur ni honte de dire à Dieu leur incompréhension et leur révolte. Ils le faisaient quelquefois d'une manière très forte, en prononçant des paroles que nous n'aurions même pas imaginées nous-mêmes. Ainsi le psalmiste peut-il dire, au psaume 13, « Jusque à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?» J'en prends à témoin aussi cette parole de Jérémie au chapitre 15 de son livre. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins? Vraiment pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieux. Et on peut se demander si une grande part de l'incroyance ne vient pas de ce que les croyants n'assument pas suffisamment, dans la foi et l'espérance, cette protestation contre le malheur qui pour eux, pour nous donc, devrait être l'expression de notre dépendance. Dépendance à Dieu, bien sûr. Quelle conclusion tirer de ces face-à-face de Job avec ses amis et avec Dieu? Nous ne cherchons pas à promouvoir une nouvelle théorie. Celui qui va jusqu'au bout de sa plainte et de sa protestation peut alors découvrir que Dieu n'est pas du côté du mal, mais du côté de l'homme pour combattre le mal. Ainsi l'histoire de Job montre l'Évangile, où Jésus prend sur lui la misère humaine pour ouvrir un chemin nouveau, un chemin de vie. Mais que cela surtout ne devienne pas une autre explication logique, car nous marcherions à nouveau dans les traces des amis de Job. Or, nous ne voulons pas adhérer à des principes humains, mais recevoir une réponse de Dieu lui-même dans la situation vécue. Lorsque Marie rencontre Jésus après la mort de Lazare, elle l'accable de reproches déçus. « Si tu avais été là, notre frère vivrait encore, » dit-elle. La première réponse de Jésus ne sera pas de fournir des explications à Marie, mais il pleurera sur son ami mort par compassion. Jésus pleure, troublé par le mal qui contredit la bonté de la création et qui atteint celui qu'il aime. Et pour lui, c'est un drame qui se déroule devant ses yeux. Dieu est avec nous pour lutter contre le malheur qui nous atteint. Il est avec nous dans ce combat de chaque jour pour qu'il y ait un peu moins de malheur dans ce monde. On ne peut plus parler de théorie, mais on peut entendre une invitation à agir de concert avec Dieu afin que les blessures de ceux qui sont atteints en leur corps et en leur âme soient apaisées et le monde renouvelé. Amen.